Bien, comment allez-vous ? Bien. Le frais vous a bien réveillé ? Et vous êtes apte à écouter encore un moment ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin ? Amen. Une personne écoute. Hier, pendant la journée, j'étais à Lausanne avec Christine et avec Florence. Nous étions à une rencontre qui était organisée pour les responsables de l'Église libre et pour les responsables de Mouvement Plus. Et peut-être que vous savez que l'Église libre est dans un temps de collaboration avec Mouvement Plus et ils nous invitent à participer à leur rencontre une ou deux fois par an. Et c'était très intéressant, un homme est venu nous parler sur la manière de construire des équipes apostoliques ou de penser de manière apostolique. Et ce qu'il voulait dire par là, penser de manière apostolique, ça rejoint une autre chose qui a déjà été dit, tout ce que Veraldo disait, c'est-à-dire prendre à cœur cette vie que nous avons reçue pour l'étendre beaucoup plus loin. Réfléchir de manière apostolique, c'est penser au royaume de Dieu qui s'étend. Pas le royaume de Dieu qui reste simplement là où je suis, mais qui s'étend et qui s'établit à mesure que nous avançons et que nous développons les dons et les capacités que Dieu nous a donnés. Et c'était très intéressant d'être encouragé en tant que responsable et en tant qu'église, on était des responsables d'église de toute la Suisse romande, à imaginer et penser que Dieu voit cette terre de la Suisse romande comme une terre encore à développer au niveau du royaume pour que de nouvelles personnes reçoivent la vie, reçoivent Christ et soient transformées pour ensuite vivre pour l'éternité avec Dieu. Voilà ce que nous avons vécu et lorsqu'on parle et qu'on utilise ce terme apostolique, c'est cette vision d'étendre le royaume de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous propose de lire les premiers versets du chapitre 19 de 1 Roi. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyons cela. Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Patatras. C'est la crise. Dimanche dernier, nous voyons Élie qui écoute Dieu, qui confronte la mort, qui confronte les faux prophètes, qui donne des paroles de vie, notamment à cette veuve qui n'avait plus rien à manger, mais voilà que l'huile et la farine perdurent pendant 3 ans dans ses pots. Et là, une femme se lève et dit « Je vais te tuer », alors que lui venait d'avoir remporté une victoire contre 850 prophètes, et il fuit. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que Élie, qui était si rempli de la présence de Dieu dans le chapitre 18, au chapitre 19, il court et il part et il fuit. Il va jusqu'à Beersheba, qui est 130 km plus loin que le mont Carmel. Et à Beersheba, il dit à son serviteur, reste là. Et lui, il part encore un bout et il se pose sous un arbre et il dit, Seigneur, prends ma vie, j'en peux plus. Élie est en crise. Il y a quelque chose qui lui tombe dessus et il a de la peine à le gérer. Et il est en train de traverser, et ce sera le chapitre 19, une crise profonde d'identité, du ministère, du sens de sa vie devant Dieu. Et je suis content qu'on puisse voir cette troisième partie sur cette thématique des saisons, la saison de l'apprentissage, la saison de l'appel et l'apprentissage, la saison de l'action dont j'ai parlé dimanche dernier, et aujourd'hui la saison de la crise, crise vers la maturité, et dimanche prochain, la saison de la fécondité. Dans la vie avec Dieu, il y a des temps de crise. Si vous pensez que la vie chrétienne, c'est une courbe qui monte comme ça sans fin, ou encore pire, vous pensez qu'on est toujours au top, c'est que vous avez été mal enseigné. Et là, je suis désolé et j'espère qu'au travers de ce matin, ça ira mieux. Mais c'est peut-être aussi simplement que vous avez des fantasmes et c'est le moment de revenir un peu sur la terre. Ou simplement, peut-être qu'il y a encore besoin de méditer la parole de Dieu et de voir ce que des hommes comme Élie ou d'autres ont vécu. Même Jésus. Vous imaginez Jésus ? Un jour, il dit une parole dans une synagogue et les gens se fâchent et le prennent et veulent le jeter en bas d'une falaise. Mais c'était qui ces gens ? C'était ses copains d'école. C'était les gens à qui il avait vendu une table, une étagère ou quelque chose dans son métier d'archarpentier. Donc des gens qu'il connaissait. Et tout à coup, ces gens avec qui il avait mangé, avec qui il avait fêté toutes sortes de célébrations, avec qui il avait été à la synagogue pendant des années, ces gens se lèvent, le prennent et avec une hargne, le poussent jusque vers la montagne où il y a le précipice. Bien plus tard, Jésus se fait fouetter, on se moque de lui et on le cloue sur une croix. Alors si ça s'appelle le top, revenez à Jésus. Élie est là et d'une certaine manière, il entre dans un temps de crise, dans un temps de questionnement, dans un temps où il est en train de se demander ce qui se passe. Et là, après avoir remporté une grande victoire, où il pensait peut-être que c'était bon, qu'il n'aurait plus affaire à Achab et Jézabel, eh bien, il voit que le combat n'est pas terminé. Et ça, c'est comme s'il se prend une pierre sur la tête et il n'en peut plus. Il est épuisé. Il y a une lassitude qui est là, un épuisement. Et lorsqu'on lit que Élie dit à Dieu, Élie dit à Dieu, « Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Et juste après, c'est marqué, il se couche et s'endormit sous un genêt. Bien, vous pouvez mettre différents termes. Épuisement, dépression, burn-out. Aujourd'hui, on dirait burn-out. Hein ? Je dors et je ne peux plus rien savoir. C'est un peu ça. Et oui, dans la vie, il y a des temps où tout à coup, il y a un événement qui peut se passer, qui est intérieur ou extérieur, qui provoque une réaction. Et dans ma marche avec Dieu qui semblait aller pas trop mal, eh bien, il y a une grosse remise en question qui se passe. Et cela fait partie de notre vie, de nos vies. Il y a un mur qui est là, et ce mur, il peut prendre différentes formes. Ça peut être une question de santé. Ça peut être un problème avec un enfant ou un parent, une difficulté dans le couple, dans le travail, une injustice qui nous arrive par rapport à une situation de l'extérieur. Et tout à coup, ça fait boum. Et il y a un temps, je ne comprends plus ce qui se passe. J'ai besoin d'être réorienté par Dieu. Mais cela peut prendre un peu de temps. Lisons un petit bout plus loin. Élie, toujours, à partir du verset 5 maintenant. Donc Élie se coucha, s'endormit sous un genêt, et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Bon, ça va pas fort, hein? L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois et le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie se lève, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Ça, c'est pas mal pour un repas. Hein ? Là, il y avait de la vitamine. Hein ? Et bien plus. Mais vous voyez comme c'est intéressant. L'ange vient et lui dit, lève-toi, mange, il prend soin de lui. Il n'est pas en train de lui dire, mais pourquoi t'es parti? Pourquoi t'as fui? Non. L'ange, Dieu, lui demande simplement ou lui propose de manger, de boire. Prends soin d'Élie dans ce temps qui est difficile. Au verset 9, là il entra dans la grotte, donc à Horeb, sur la montagne, dans le Sinaï. Là il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Et il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » Vous voyez le tableau là? « J'ai déployé, j'ai donné tout ce que j'ai pu, Seigneur. » Et puis je suis tout seul maintenant. Tu n'as même pas fait quelque chose pour que les autres soient avec moi. C'est quoi ça? J'en peux plus, Seigneur. Au moins, il parle à Dieu. Au moins, il a répondu à la question de Dieu qui était « Que fais-tu ici, Élie ?» Et j'aime bien cette question. De nouveau, ce n'est pas une question qui écrase, mais c'est une question qui vient et Dieu se met à côté d'Élie et lui dit « Que fais-tu ?» Et il engage un dialogue. On peut dire que ça permet à Dieu de savoir où Élie en est. Et on comprend qu'Élie, ben, il reste toujours dans son burn-out, dans son épuisement, dans cette saison difficile. Et puis là, donc il a fait 130 km jusqu'à Beersheba, ce qui fait un certain nombre de jours. Puis ensuite, il a marché 40 jours. Donc ça fait déjà 5, 6, 7 semaines que ça tourne dans sa tête et qu'il est mal. Ce n'est pas quelque chose de très rapide. Il a eu le temps de ressasser les choses. Et après environ 6-7 semaines, eh bien, la conclusion, c'est « Je suis seul et j'en ai marre. Trouve-moi autre chose. » Dans les temps de crise, il y a différentes choses qui se trament. Ben, il y a une profonde remise en question de qui on est, ou de ce qu'on fait, ou de ce qu'on ne fait pas, de ce que nous avons réussi ou pas réussi. Et si on ose un peu examiner, et tu peux mettre le slide suivant s'il te plaît, si on ose examiner ce qui se passe dans ces temps-là, eh bien on va réaliser que souvent, il y a des choses qui ont besoin de tomber, ou qu'on a besoin de lâcher. Il y a peut-être des blessures qui ressurgissent et tout à coup qui font mal. De l'injustice ou du rejet ou de la culpabilité qui revient un peu à la surface tout à coup parce qu'une reine me dit « si je ne te tue pas, ça ira pas ». Il y a peut-être le besoin de contrôler le besoin de contrôler doit diminuer. Parce que lorsqu'on devient des fois fort et puissant, comme Élie dans les chapitres précédents, eh bien, il avait l'impression de contrôler plein de choses. Il priait, le feu descendait. Et puis là, il n'y a plus rien qui ne se passe. C'est comme s'il doit faire de la place pour que Dieu soit ou parle différemment. Nos motivations pour le service ne sont pas si louables que cela. Ça, c'est une chose que l'on peut réaliser quand on sert pendant un certain temps, puis tout à coup, par exemple, un des syndromes, syndrome du Saint-Bernard, vous savez ce que c'est de jouer au sauveur. Et peut-être qu'en aidant et en voulant bien faire, au bout du compte, on a envie de sauver tout le monde, alors que Dieu ne nous demande pas de sauver tout le monde, parce que c'est quand même Dieu qui sauve. Mais il nous a peut-être aidé ou donné de la compassion, donner la capacité d'aider, de trouver des solutions pour X ou Y, mais ne nous demande pas de sauver le monde entier. Et lorsque, de manière très fine, on est en train de glisser, au début, on savait très bien que c'est Dieu qui sauve, mais à un moment donné, on se dit « Ah, mais c'est quand même pas mal. Quand je fais quelque chose, ça aide quelqu'un et ça va mieux. Puis si je fais encore pour cette personne, ça ira mieux pour cette personne. Puis j'y trouve un certain plaisir, merci. » Et puis effectivement, je risque de me transformer en celui qui sauve. Et Dieu a besoin de travailler cette dimension-là. Ou peut-être que j'aime faire la paix avec les gens, et puis dans ma manière d'être, je peux être un peu médiateur ou réconciliateur, et puis j'aide à faire la paix. Et puis il y a tellement de situations où c'est important. Mais peut-être qu'à un moment donné, en voulant trop faire la paix, j'oublie de confronter, ou parfois de donner des limites, ou de dire de temps en temps, non mais là ça suffit. Et si je continue avec la paix, ben je vais me retrouver peut-être coincé dans une situation où je ne m'en sors pas. Et là, c'est la crise. Il y a des crises qui peuvent arriver de manière subite. On se cogne contre un mur. Puis il y en a d'autres qui peuvent arriver de manière beaucoup plus lente, par une forme de lassitude ou une situation qui évolue. J'ai traversé différents temps de remise en question ou de crise, notamment deux fois en perdant mon emploi. Bon, la première fois, j'ai démissionné. Et avec Christine, qui avait démissionné aussi de son côté, nous sommes partis nous former en théologie. Et après un temps de saison d'action, en partant, en quittant nos professions, en allant nous former en théologie, ce temps de formation a été comme une crise vers la maturité. Je me souviens très bien, on est arrivé dans cette faculté, on a pris quelques cours, et le premier semestre, on est tombé dans une classe, on savait pas trop ce qui allait se passer, on nous avait dit, moi, il faut que vous preniez ce cours, ça sera très très bien. On a dit, ok. Et puis on était avec un professeur qui était très, très intelligent et très profond dans ses réflexions. Et en quelques cours, il a démoli plein de nos certitudes sur la manière de vivre la foi. Et il a questionné ce qu'on avait construit. Puis c'était bon. Sur le moment, c'était des fois un peu énervant ou troublant. Mais si on va en école biblique et qu'on n'est pas remué dans ce que l'on croit, dans ce que l'on pense et dans ce que l'on fait, il vaut mieux pas aller en école biblique. Mais c'est des temps pas faciles parce que ça demande de se remettre en question, de se repositionner devant Dieu et d'évoluer et de s'élargir. Alors là, c'était une entrée dans un temps de crise qui était choisi, qui n'était pas un choc, mais néanmoins crise vers la maturité. Puis bien des années plus tard, j'ai perdu mon emploi. Techniquement, oui, j'ai démissionné, mais je n'avais pas le choix. Je devais partir, c'était plus possible d'être pasteur où j'étais. Puis là, c'était une crise brutale, violente, en me demandant, mais qu'est-ce qui se passe? Et Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ces temps de crise font partie de notre chemin avec Dieu. Ce n'est pas qu'on les souhaite, mais ça en fait partie. Et c'est un peu comme les saisons. Au tout début, j'ai oublié d'en parler, mais il y avait une image d'un bel arbre. Mais on voit que c'est un arbre qui est où c'est l'automne, les feuilles vont bientôt tomber. Et si on était des fois un peu plus connecté au monde naturel avec les saisons, on comprendrait qu'un arbre qui est grand et solide, il en a passé des hivers. Et c'est au travers d'un grand nombre d'hivers, et bien sûr de printemps, d'été et d'automne, qu'il est devenu fort et solide. Et il y a un enseignement à prendre pour nos vies, où il y a des temps, il y a des saisons, il y a des moments où c'est peut-être calme, des moments où il n'y a rien qui se passe, où tout est froid et un peu gelé. Mais après, il y a une visitation de Dieu ou quelque chose qui nous est donné de redécouvrir et sur lequel on peut construire la suite de notre vie et un temps avec Dieu qui est plus solide, plus profond, plus authentique peut-être. Alors, continuons avec Élie. Que va-t-il se passer avec lui ? Au verset 11 de 1 Roi 19. Alors vous vous souvenez, donc Élie dit à Dieu, j'ai développé tout mon zèle, mais je suis seul, pauvre de moi. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Ça a dû être troublant pour Élie, parce qu'il connaissait bien l'Éternel avec le feu, avec le vent. Hein, le vent était venu et puis il avait ramené la pluie. Le feu était descendu lorsqu'il avait prié. La terre avait peut-être un peu tremblé aussi. Puis en même temps, Élie est sur le mont Horeb. Il est à l'endroit où Moïse avait reçu la révélation pour le peuple d'Israël. Et quand on lit les récits dans Exode, eh bien on voit qu'autour de cette montagne, il y avait eu du vent, du feu, du tremblement de terre, et Dieu était là. Et Élie connaissait ces histoires. Mais là, Dieu n'est pas là. Puis des fois, dans notre vie, on a envie de refaire comme on faisait, comme on avait fait, comme Dieu nous avait montré. Et puis on essaie de réutiliser la même méthode, puis il n'y a rien qui se passe. Parce que Dieu n'est pas là. Parfois, on veut mettre Dieu en boîte. Et puis c'est comme si Élie aurait voulu que Dieu se manifeste toujours par le feu qui descend. Mais non, Dieu n'est pas en boîte, on ne le met pas en boîte. Je ne sais pas combien de temps ça a duré sur la montagne, hein, le feu, le tremblement. Il ne faut pas imaginer que c'est juste un film d'Hollywood en 5 minutes. Hein. Ça a peut-être été quelques jours, je ne sais pas. Et ensuite, après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Il avait compris que Dieu était cette fois dans le doux murmure, dans le murmure doux et léger. Quelque chose de très différent du feu, du tremblement de terre. Peut-être c'était la première fois qu'Élie entendait Dieu de cette manière. Donc il a été en mesure d'accepter que Dieu pouvait se révéler différemment que ce qu'il avait connu jusqu'alors. Et souvent dans les saisons de crise, c'est une question, est-ce que j'accepte que Dieu se révèle différemment et me fasse cheminer un peu plus largement que le chemin que j'avais emprunté jusqu'à aujourd'hui. Parfois dans les saisons de crise, on peut comme se révolter, puis dire « Mais Seigneur, ça ne va pas, tu ne fais pas comme avant, il faut que tu fasses comme avant, sinon je n'arrête pas. » Sinon, il n'y a plus rien qui se passe. Mais tu avais révélé ta parole de cette manière-là. Il faut que tu continues de cette manière-là. Puis on se révolte et on donne encore des ordres à Dieu. Au lieu d'ouvrir son cœur et de laisser Dieu percer des cuirasses qui sont encore bien présentes. Et c'est ce que Élie finalement laisse faire. Et il entend le murmure doux et léger. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et vous remarquez que c'est la question qui avait été posée auparavant. Et là encore, Élie reçoit cette question. Et j'entends à nouveau cette bonté de Dieu qui vient se mettre à côté d'Élie et qui lui demande encore une fois « Mais comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il laisse Élie à nouveau s'expliquer. J'y reviens dans un moment. Dieu ne se confine pas dans notre boîte. Dans cette saison, il y a souvent quelque chose de l'ordre de la perte ou du dépouillement. Je dois réapprendre ou je dois lâcher certaines anciennes manières de faire. Je dois apprendre à vivre un peu différemment, où les choses ne sont peut-être pas toujours aussi claires que ce que j'avais cru auparavant. Mais dans cette saison, il y a aussi des promesses de restauration, d'espérance, tant de purification. Parce que souvent, lorsque je lâche des choses, eh bien, je deviens... C'est comme me débarrasser, par exemple, d'un péché. Quand je parlais du syndrome du Saint-Bernard, ou celui qui veut tout le temps sauver, si je me débarrasse de cette motivation, en fait, qui finalement était venue de mon cœur, ben, je laisse plus de place à l'esprit. Et donc, je deviens... C'est un temps de purification que Dieu me permet de vivre. Et j'aime bien cette phrase en bas du slide qui dit « qui parle de la saison de l'action comme nous faisons les œuvres de Dieu, nous entrons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et donc il y a plusieurs saisons de l'action dans nos vies. Hein. Puis la saison de la crise vers la maturité, c'est nous sommes comme œuvre de Dieu. C'est comme si Dieu pétrit nos cœurs, retourne la terre pour qu'elle puisse porter du fruit. On retourne les jardins avant l'hiver ou après l'hiver pour préparer la terre pour la nouvelle saison. Et Dieu, souvent, il fait ça avec nos vies et il a besoin de temps pour qu'on soit pétri et disposé à recevoir de nouvelles semences qui vont permettre d'élargir et d'aller plus loin dans l'appel qu'il nous a donné. Je n'ai pas le texte, enfin il n'est pas écrit sur le slide, mais juste après, j'ai oublié de l'écrire, juste après le verset 13, à cette question que Dieu donne à Élie, « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répond, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » C'est exactement que quelques versets auparavant. Mot pour mot. Et c'est un peu étonnant. J'étais un peu troublé par ce truc. Je me dis, qu'est-ce qu'il a entendu finalement ? Il rencontre Dieu sur la montagne, puis finalement il dit la même chose. Alors on peut interpréter ça peut-être de manière différente, mais probablement que le désespoir d'Élie, ou son épuisement, ou son burn-out était très profond, et ça prend du temps pour poursuivre. On peut aussi réaliser, Élie, il a entendu Dieu qui lui pose encore cette question, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il avait entendu Dieu avec ce murmure doux et léger. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, des fois on entend Dieu, puis on a quand même de la peine à bouger ou à changer. Des fois on entend que Dieu nous parle ou nous restaure, et puis tout à coup on se retrouve à dire dans la rue ou à l'extérieur, puis on continue de se plaindre. Et j'ai l'impression qu'Élie ici, il est resté dans sa position un peu de victime, de pitié de soi. Dieu l'a entendu une première fois et il lui dit, viens sur la montagne et puis je vais te révéler qui je suis. Et il y a ce temps de révélation au travers du murmure doux et léger. Et puis là, la deuxième fois, en 1 Roi 19, 14, il redit la même chose. Et juste après, on verra ça peut-être plus la prochaine fois, mais juste après, laisse ce verset. L'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Donc là, Dieu est en train de lui donner la prochaine mission pour la saison suivante. Dieu ne le laisse pas être dans son sens de pitié ou de victimisation. Dieu s'est révélé à lui, il a eu du temps, et finalement Dieu lui dit, mais regarde un peu plus loin. Parfois, malheureusement, ça peut être confortable de rester dans cette position de victime. Ah Seigneur, j'aimerais bien encore un tour de rocher là. Puis tu te révèles de nouveau à moi. Ça m'a fait du bien. Puis si je peux rester là, puis plus avoir affaire avec les autres, tout va bien. La tentation, elle est grande parfois. Mais Dieu n'écoute pas ça. Elle lui donne une indication pour la mission suivante, qui d'ailleurs est assez étonnante, et on le verra dimanche prochain. Dieu a laissé le temps à Élie d'être touché, d'être transformé, d'être purifié et de pouvoir se relever pour ensuite entrer dans la saison suivante, saison de fécondité ou d'action. Mais Dieu permet à Élie d'évoluer alors qu'Élie reste à l'écoute de Dieu. Ce qui est intéressant, tout au long, il est resté à l'écoute de Dieu de manière générale, mais à aucun moment il voulait surtout dormir. Donc là, Dieu a dû taper fort pour qu'il se réveille et qu'il mange. On est bien d'accord. Prenons, puisque j'avais dit qu'on prendrait aussi l'exemple de Pierre. Tu peux mettre le slide suivant. Il y a deux semaines, Sidi nous a parlé de Pierre, de l'appel et de l'apprentissage. Puis Pierre a continué d'être avec Jésus et il a vécu plein de choses. Il a vécu la multiplication des pains, il a vécu le temps sur la montagne où Jésus s'est révélé avec Moïse et Élie. Il a vécu des choses extraordinaires de guérison, de délivrance. C'était magnifique. Et puis en s'approchant du temps où Jésus va être crucifié, encore une fois, Jésus avertit ses disciples en disant « je vais mourir ». Et puis Pierre, il dit « alors ça, jamais. Et en tout cas, il n'y a personne qui te touchera mieux que je meure que toi. » Et ça, c'est quelques heures avant que finalement Pierre se dégonfle complètement et il renie Jésus. Trois fois. Une fois, on se dit « c'est déjà pas mal », mais trois fois. Et de manière très rapide, on va dire, il entre en crise. Tout à coup, il avait promis de suivre Jésus avec toute sa vie, et l'instant d'après, il le renie, il se met à pleurer, il reste avec les autres quelques jours, il entend parler de la résurrection de Jésus, mais ensuite il part en Galilée et il va pêcher. Il ne sait plus où il en est, en fait. Il avait vu Jésus agir. Il avait imaginé que tout irait bien. Mais il n'avait surtout pas pensé que Jésus pourrait mourir. Il n'avait pas vécu, il n'avait pas anticipé le scénario de cette manière-là. Et ça lui tombe dessus. Et il part en Galilée faire ce qu'il savait faire, c'est-à-dire pêcher. Puis après, il y a ce fameux épisode où Jésus arrive. Et alors qu'ils n'ont rien pêché, Jésus dit à Pierre, « Mais mettez le filet de ce côté-là. » Et les filets se remplissent. Et tout à coup, Pierre réalise, « Mais c'est Jésus qui est là. » Ça lui était déjà arrivé 3 ans auparavant, lors de l'appel. Et Dieu, ou Jésus en l'occurrence, revient vers Pierre. Et il l'appelle à s'asseoir sur la plage. Et ils discutent, ils mangent. Et à un moment donné, Jésus dit, « Pierre, m'aimes-tu ?» Et il va lui poser 3 fois cette question. Et 3 fois, Pierre va dire oui. Et 3 fois, Jésus va dire, « Bien, paie mes brebis, prends soin de mes brebis, nourris mes brebis. » C'est la nouvelle mission pour après ce temps de crise. Mais ce temps de crise profonde sur l'identité de qui est Pierre lui permet d'être assis sur la plage et d'entendre Jésus différemment. Où Jésus dit, « Pierre, m'aimes-tu ?» Ce n'est pas « Pierre, es-tu prêt à aller porter tout ce poisson vers ceux qui ont faim ?» Non, Jésus appelle Pierre à un cœur à cœur. Ce qu'ils n'avaient pas suffisamment, ou certainement pas vécu autant avant. Puis là, Jésus comme ouvre les yeux de Pierre, les yeux de son cœur, et l'appelle à une relation, à un échange, un dialogue, un amour entre eux, qui ensuite lui permettra d'être Pierre tel qu'on le lit dans les Actes des Apôtres, où il va faire encore plein de choses. Mais il y aura une solidité beaucoup plus grande parce qu'elle est ancrée dans ce cœur à cœur entre Jésus et Pierre. Donc la crise pour Pierre, elle est salutaire. Elle lui a permis ensuite de pouvoir poursuivre la mission telle que l'appel de Dieu avait résonné dans sa vie auparavant. Laissons cette histoire d'Élie, cette histoire de Pierre, nous enseigner et nous guider par rapport à notre propre chemin. Et je suis sûr que vous pouvez tous identifier certains moments où ça peut être plus compliqué, ou peut-être que vous êtes en train de traverser un moment où vous vous demandez ce qui se passe, comment poursuivre dans votre vie avec Dieu. Eh bien, regardez, autant pour Élie que pour Pierre, il y a eu une rencontre particulière avec Dieu dans ce moment-là. Et Dieu s'est révélé. Alors cherchez Dieu. Si vous êtes en crise, laissez Dieu vous travailler et retourner votre terre. Ne limitez pas Dieu. Ne l'empêchez pas de venir travailler votre terre. Mais osez dire à Dieu, Saint-Esprit, viens, et révèle-moi encore qui est le Père par Jésus-Christ. Personne, et je le redis, personne n'aime les temps de crise. Moi, j'aime pas. Je trouve ça nul. Si je réagis d'abord. Mais après, si je m'ouvre à Dieu et je le laisse travailler mon cœur, je vois que ça porte du fruit et que ça m'aide à grandir pour être plus à l'image de Christ. Dans mon adoration pour Dieu, dans mes relations avec ceux qui m'entourent. Donc il y a des choses qui sont bonnes. Et Dieu va continuer à nous faire cheminer dans les saisons pour que l'on puisse lui ressembler toujours plus. J'aimerais terminer en prenant un psaume. Tu peux mettre le psaume 142. J'aurais pu prendre le psaume 13 ou le psaume 70. Mais le psaume 142, c'est quelqu'un qui implore l'Éternel parce qu'il n'y a rien qui va. Et c'est marqué « Je lui raconte ma détresse ». Comme Élie. Élie a raconté sa détresse. Et nous sommes invités à raconter notre détresse lorsque nous sommes en crise. Et puis, le psalmiste dit « Regarde à droite, il n'y a personne qui me reconnaît. Mais tu es mon abri. Tu es ma part au pays des vivants. Je suis faible. Délivre-moi, j'en peux plus. » Et un jour, je pourrai te célébrer et déclamer ton nom. J'aimerais que l'on prenne cette prière ensemble. Et qu'on la prie ensemble. Et qu'on la prie avec, de manière communautaire. Peut-être que vous n'êtes pas en crise, mais on va la prier pour soutenir ceux qui sont en crise. Et si vous êtes dans cette crise vers la maturité, quelle qu'elle soit, bien priez-la de tout votre cœur et regardez que vous n'êtes pas seul. Je vous invite à vous lever et j'aimerais que l'on prie tous ensemble à haute voix, qu'on lise ce psaume et que ce soit notre prière pour terminer ce temps. Alors débutons. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de ma prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Seigneur notre Dieu, merci, parce que nous pouvons tout te dire. Et je te prie en particulier ce matin pour mes frères et sœurs ici qui se sont identifiés pleinement avec cette prière parce qu'ils sont dans un temps difficile de dépouillement, de crise, de perte. Et Seigneur, je prie pour eux. Et nous prions afin que tu les restaures, que tu les aides à cheminer. Nous prions que tu te révèles dans leur cœur d'une manière profonde et nouvelle pour qu'à nouveau ils puissent célébrer ton nom. Seigneur, merci d'être avec eux et par ton esprit, dans ta compassion, dans ta veillance, chemine avec eux et amène-les au pied de ta croix, là où ton amour se révèle. Et permets-leur de se relever en ton temps. Seigneur, aide-nous à avoir de la compassion les uns pour les autres, à nous respecter dans nos chemins et nos saisons, et nous encourager dans nos chemins et nos saisons. En ton nom, Jésus. Amen.